Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro, je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. En premier lieu, les hommes mangent mieux s'ils trouvent facilement des commerces qui vendent des aliments santé dans leur quartier. C'est le résumé d'une étude qui a été publiée récemment par des chercheurs du Centre de recherche du CHUM et de l'Université de Montréal. Et en deuxième partie d'émission, Yann Kestens, lui qui est chercheur et qui a mené cette étude-là, sera là pour nous en parler davantage. D'abord, un petit peu plus tôt cet automne, oui, des jeunes qui habitent le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal ont participé à un projet créatif pour les faire réfléchir sur leur vision, leur rapport, le contact qu'ils ont avec l'alimentation. Ce projet-là a mené à une exposition qui s'intitulait Hochelaga Table, un projet en fait global. Et veux-vous pas, ce projet-là, quand j'en ai entendu parler, m'amenait et amène tout le monde là, à une réflexion un petit peu plus poussée, à savoir est-ce que la bouffe santé, la nourriture saine qu'on appelle, est-ce qu'elle est accessible pour tout le monde? En 2013, il y a une étude de la Direction de santé publique de Montréal qui était assez bouleversante à cet effet et qui révélait que plus de 40 % des Montréalais n'avaient pas accès à des fruits, à des légumes frais dans un rayon de 500 mètres de leur domicile. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des déserts alimentaires? Je vais poser cette question-là à Blaise Rémillard, lui, coordonnateur pour le projet de solution aux déserts alimentaires de la table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et il est accompagné de Gaëlle Janvier, urbaniste chargée de projet en agriculture urbaine et systèmes alimentaires locaux chez Alternative. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour Gaëlle. Gaëlle, c'est un petit peu grâce à vous qu'a lieu à quelque part cette entrevue-là, parce que l'expo liée à Hochelaga Table, je l'ai manqué. C'était 3 jours là, à la fin du mois de novembre et j'étais déçue et j'avais envie qu'on se donne l'opportunité d'en rediscuter, même si l'expo, elle s'est terminée. Mais il est quand même important de souligner que ce projet-là, Hochelaga Table, a une suite. Ce n'était que le premier volet, cette exposition-là.
Effectivement, puis elle vit en ligne aussi. On a, au cours des consultations, donc on a fait des ateliers avec 48 jeunes de Hochelaga-Maisonneuve au cours de l'année passée, quelques mois, et les données, les réflexions qui ressortaient de ces ateliers-là, on les mettait en ligne automatiquement. L'exposition était comme un recueil, en fait, de toutes ces réflexions-là, qui était plutôt visuel, effectivement, mais dont on retrouve la grande majorité des traces sur le site.
Oui. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu en entendre parler, parce que je pense que ça a créé de vives réactions chez les gens qui s'intéressent à l'alimentation. Et bon, cette expo-là démontrait ou montrait des photographies que les jeunes avaient prises pendant leur réflexion, aussi des cartographies. Qu'est-ce qu'il y avait aussi également qu'on pouvait observer?
Bien, en fait, on faisait un parcours avec eux sur 8 heures en petits groupes où on allait explorer leur lieu d'achat, où on analysait qu'est-ce qui était le plus important dans un lieu d'achat. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la proximité? Est-ce que c'est le service? Et on explorait ensuite le plaisir qu'on a de manger, le plaisir qu'on a de cuisiner envers les aliments. On parlait de ce qu'on cuisinait, les habitudes qu'on avait, des trucs culinaires. Donc, entre eux, les jeunes, en tout cas pas trop jeunes parce qu'ils ont quand même 18 à 30 ans,
les
jeunes adultes, échangeaient des trucs, échangeaient aussi des lieux dans le quartier qui pouvaient profiter à tous. Et pour clore toute cette réflexion-là, on venait à réfléchir à comment améliorer effectivement l'environnement alimentaire. environnement alimentaire pouvant être bon, des choses mobiles, des choses fixes, une épicerie, mais à aussi des restaurants, finalement. Effectivement.
Parlant d'environnement alimentaire, Blaise Rémillard, vous, vous les connaissez, ces environnements-là, parce que vous tentez justement d'en faire des lieux plus favorables. Tout à l'heure, je parlais de cette étude lancée par la Direction de santé publique de Montréal. Est-ce que c'est ça, un désert alimentaire, là, quand il n'y a pas de marché qui offre des fruits, des légumes frais à moins de 500 mètres?
Oui, oui, tout à fait. Donc, la définition plus générale, c'est un lieu où il y a une mauvaise accessibilité aux aliments. Là, les scientifiques ont établi que dans un rayon de 500 mètres, donc 5-10 minutes de marche pour quelqu'un qui a une mobilité normale, ben c'est un rayon d'approvisionnement à pied.
Mm-hmm.
Et puis, ensuite de ça, ben, on rajoute le facteur pauvreté aussi. Donc, dans les déserts alimentaires, il y a tout le temps un facteur de pauvreté parce qu'on présume que les gens qui sont plus nantis vont avoir les moyens de se déplacer, mais pas nécessairement les gens qui n'ont pas de voiture ou même qui ont de la misère à prendre les transports en public, par exemple.
Oui, oui, on peut penser aux personnes âgées, notamment.
Oui, ou les personnes faibles salariées ou sur l'aide sociale. Les tarifs de transport en commun, c'est un gros obstacle. Donc, à ce moment-là, on regarde le désert alimentaire comme tout le lieu où c'est compliqué pour une variété de personnes de bien s'alimenter.
Est-ce que les déserts alimentaires existent qu'en milieu urbain?
Je ne suis pas certain que l'appellation désert alimentaire n'est pas réservée à des études de planification urbaine, mais c'est évident qu'on voit des villages partout au Québec, en région où la petite épicerie du village ferme, et puis les gens qui n'ont pas de voiture ou les gens qui ont toutes sortes d'entraves à la mobilité, bien là, se retrouvent vraiment mal prises. Là.
Mm-hmm.
C'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on peut se retrouver dans le milieu de champs agricoles et pourtant faire 20 minutes de route pour atteindre une épicerie qui serait décente avec une diversité de produits alimentaires.
Oui, tout à fait. Tous les deux, bon, Blaise, vous travaillez dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Oui. Votre titre le dit bien. Gaëlle, le projet Hochelaga-Table, ben, la base, c'était ce quartier-là également.
Oui, c'est centré vraiment sur ce quartier.
Mais ça aurait pu être d'autres quartiers à Montréal, notamment les déserts alimentaires, c'est pas juste dans Hochelaga-Maisonneuve, là.
Non, définitivement. Puis il y a la Direction de la santé publique subventionne une quinzaine de projets comme le mien qui ont pour but de mettre en place des solutions concrètes là, dans des quartiers de Montréal. Donc, il y en a à Lachine, il y en a dans Mercier, enfin, il y en a un peu partout sur l'île de Montréal. Et puis, il y aurait place même à faire de plus nombreux projets là, mm-hmm. pour explorer des solutions.
Mm-hmm. J'imagine que, encore là, ben, c'est toujours l'impact financier. Là. C'est ce qui manque, c'est les ressources là, financières.
Oui, définitivement. Puis on est dans une phase un peu expérimentale où on constate qu'il y a des lacunes, que le marché répond pas aux besoins de tous et puis favorise pas la santé de tous. Et puis on essaie de trouver des alternatives à ça. Et donc, présentement, les projets qu'on mène, c'est vraiment des expériences à voir qu'est-ce qui est le plus porteur, qu'est-ce qui améliore le plus, qu'est-ce qui est pérennisable surtout. Parce que ce qu'on vise, c'est vraiment à transformer à long terme là, nos environnements alimentaires.
Et ce qui est concret, et ce qu'il y a de bien, Gaëlle Janvier, avec Hochelaga-Table, il me semble, c'est que c'était très concret. Ça allait vraiment créer un dialogue direct avec ces jeunes qui sont âgés entre 18 et 30 ans dans ce quartier-là, Hochelaga-Maisonneuve, et de les amener à s'intéresser à leurs habitudes alimentaires. Mm-hmm.
Oui, c'est sûr que, bon, pourquoi les 18 à 30 ans, pourquoi le quartier Hochelaga-Maisonneuve? Premièrement, vu l'initiative de la DSP d'Hochelaga-Maisonneuve qui est portée par Blaise, bon, c'était déjà un point de départ. On savait que ces réflexions-là pouvaient être prises par un projet concret. Aussi, bien, l'idée, c'était effectivement d'intéresser des jeunes qui viennent d'acquérir leur autonomie alimentaire, mm-hmm. puis de se poser, puis de peut-être poser une petite graine de réflexion dans la tête, de dire comment moi je vais m'alimenter pour le restant de mes jours, oui. en fait, et d'y réfléchir avec d'autres. Puis ce qu'on voit, c'est que peu importe c'est que je ne dirais pas qu'il y a une corrélation directe, puis là, ce n'est pas scientifique comme, comme évaluation, mais il n'y a pas une corrélation directe entre la somme que la personne a entre les mains, mm-hmm. mais bien son intérêt, ses relations qu'il a eues au cours de sa vie, l'éducation qu'il a eue.
La créativité aussi.
Effectivement, puis tu vois qu'il y a des jeunes qui semblent avoir eu quand même beaucoup de difficultés, mais bon, un colloque qui leur apprend toutes sortes de choses, puis ils ont une curiosité, donc dès que ça... Dès qu'il y a un intérêt à ce moment-là, on peut apprendre énormément
des choses qui se
par
passent.
Soi-même. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on a remarqué. Puis ce qu'on voulait surtout faire avec ça, effectivement, c'est donner un visage aux mangeurs.
Oui, oui, oui.
Parce qu'on réfléchit à l'alimentation. Bon, on parle beaucoup du mangeur qui ne mange pas bien, mais ensuite, que le mangeur lui-même dise, mais... Qu'est-ce qui m'entoure? Qu'est-ce qui fait en sorte que je mange de cette façon-là? On y réfléchit très peu. Puis je pense qu'on est justement rendu à un moment où on se dit qu'il y a une possibilité de rendre des environnements plus sains, plus favorables à nos, pour améliorer nos habitudes, mm-hmm. en fait.
Pas nécessairement une corrélation, vous disiez, entre l'argent qu'on a dans les poches et la façon de s'alimenter, mais mm-hmm. j'imagine, Blaise, je m'adresse à vous, une corrélation entre désert alimentaire et santé des résidents. Mais bien sûr, vous me corrigez si je me trompe, mais j'imagine oui. que ça a un impact sur la santé des gens qui habitent des quartiers où il y a présence de désert alimentaire.
Oh, définitivement. Puis ce que votre invité plus tard va vous dire, c'est particulièrement chez les hommes.
Mm-hmm.
Donc, effectivement, c'est plus c'est compliqué d'avoir des habitudes de vie saines, eh bien, moins on est en bonne santé. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais il y a eu des recherches qui ont été menées aux États-Unis où on voyait dans certaines populations des augmentations de 30% de consommation de fruits et légumes lorsque on était plus près d'une épicerie, par exemple.
Mm-hmm.
Et encore là, il y a lieu de se demander quel genre d'approvisionnement on a. Récemment, okay. on a vu des liens entre proximité d'une grande surface et obésité. Donc, si le marché près de chez nous vend les 2 litres de Pepsi en paquet de 12, et puis qu'on va s'approvisionner, on achète 24 litres de Pepsi à la fois, bien, on a plus de chances d'être obèse par la suite. Ça devient des évidences, mais on n'est pas porté encore, je pense, d'avoir la citoyenneté active au niveau de l'alimentation. C'est ce qu'il y avait d'intéressant dans Schlagatable, c'est que vraiment, on allait chercher des gens qui sont pas sollicités normalement pour ces enjeux-là, puis on leur demandait, mais comment vous planifiez votre santé, comment vous planifiez votre plaisir de manger de votre quartier, puis parce que c'est une dimension super importante de la vie, puis de notre,
mm-hmm.
de notre qualité de vie
aussi, oui.
De notre quartier. Donc, de se pencher là-dessus, puis de se dire, bon, mais comment on veut qu'il soit notre quartier, puis l'alimentation, ça en est un facteur très, très important.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. On regarde ça de toutes les facettes pour finalement arriver à améliorer la santé des gens, mais aussi toutes sortes d'autres facettes de leur vie.
On parle de magasins grande surface. Gaëlle, est-ce que lors de vos discussions avec ces jeunes-là, les participants de mm-hmm. Schlagatable, le fait d'avoir des restaurants où on sert de la malbouffe, ça avait un impact sur leurs intérêts alimentaires?
Je pourrais peut-être répondre plus à la question qu'est-ce que eux, au bout du compte, voyaient comme étant favorable ou voulaient mm-hmm. accueillir dans leur quartier. Puis effectivement, les grandes surfaces, c'était un intérêt. Il y en a plusieurs qui se déplaçaient jusqu'à un autre quartier, un autre arrondissement pour aller dans des grandes surfaces
ah ouais.
ou des marchés ou pour avoir accès à une épicerie particulière là,
mm-hmm.
qui est peut-être plus multiculturelle qu'on le retrouve actuellement. Il y en avait énormément, c'est ça, beaucoup de Costco, de Super C Mobile, des PA, tu sais, des épiceries qui sont peu chères et proches. Mais ce qui m'a beaucoup intéressée dans tout ça, c'est l'idée aussi d'avoir des meilleurs services. Des restaurants qui étaient, oui, plus proches, mais où il y avait une bonne ambiance.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est ce à quoi on réfléchit très peu.
Oui. Mm-hmm.
Mm-hmm. Tu sais, OK, oui, mais il y a une banque alimentaire. Puis c'est étonnant parce que c'est quand même des jeunes qui sont en difficulté, qui sont dans des auberges jeunesse. Alors, on se dit, bon, ils ont peu d'argent, donc ils vont utiliser les services de dépannage alimentaire. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, c'est pas tant.
Parce que c'est peut-être pas une atmosphère qui leur plaît.
Ben oui, peut-être. Ben, puis c'est là où on essayait de creuser, puis j'ai pas les données ici avec moi, mais effectivement, ben s'il y avait comme un désintérêt qui est un peu inexplicable la majorité du temps, c'est comme moi, je sais que ça existe, je suis allée une fois, j'ai plus vraiment envie d'y retourner. Mm-hmm. Donc là aussi, on réfléchit à comment on pourrait rendre ces lieux-là plus accueillants pour une plus grande diversité de gens dans le besoin.
Mais peut-être aussi qu'on n'a pas envie d'y aller parce qu'on ne veut pas être marginalisé. En allant dans une banque alimentaire, ben, on a l'impression peut-être de faire partie d'une population plus exclue ou plus vulnérable. Il y a peut-être ce regard-là aussi qu'on a envie d'éviter.
Oui, puis il faut aussi admettre qu'on est dans cette situation-là aussi pour y aller. Donc, c'est pour des jeunes, c'est peut-être moins probable. Mais il y en avait un qui était très bien. Il y avait trois femmes qui disaient qu'ils voulaient un Ricardo pour personne démunie à la maison. Donc, un Ricardo livré à domicile pour apprendre des petites recettes de cuisine. Il y avait des choses assez, assez intrigantes. Donc, les projets sont proposés en ligne avec des petits dessins, avec vraiment des détails de chaque projet.
Et bien sûr, ces projets-là mènent à rêver et à amener éventuellement des projets ou des solutions plus concrètes.
Ouais.
C'est quoi les façons que vous avez peut-être en tête, Blaise, pour justement amener des solutions pour peut-être amoindrir l'impact des déserts alimentaires pour qu'il y en ait moins sur l'île de Montréal?
Oui, bien, présentement, on est à évaluer. On a mené une enquête cet automne sur les besoins et les habitudes des gens dans les secteurs des aires alimentaires de Hochelaga-Maisonneuve. Et là, présentement, on est à étudier ces résultats-là pour déterminer. Donc, il y a quelques familles. Il n'y en a pas des... On réinvente pas la roue. Là, on parle d'épiceries qui sont communautaires d'une façon ou d'une autre. Des fois, ça va être des coops ou des OBNL d'alimentation. Mm-hmm. On peut parler aussi de marché public, comme on pense au marché de solidarité Frontenac. On peut penser à des programmes d'épicerie itinérante ou mobile, comme il y a le Fruixi qui roule dans Centre-Sud. À Saint-Léonard, c'est un autobus, c'est épicerie. Et donc, il y a toutes sortes de façons de mettre ça en place. Maintenant aussi, il faut étudier un peu les besoins, les aspirations des gens du milieu, puis aussi les opportunités. Donc, nous, il y a certains organismes qui offrent déjà des services de cuisine collective. Il y a le Resto Pop qui offre des repas pas chers. Donc, de voir aussi comment on peut faciliter les déplacements, peut-être, pour que ces services-là se rendent aux gens. Donc, c'est tout ça qu'on étudie. Et puis, on a la beauté et l'embarras du choix là-dedans. Et puis, on le fait avec les citoyens puis les organismes. Donc, au mois de mars, on va avoir des activités de diffusion, des résultats de nos différentes études. Et puis, au mois d'avril, on devrait faire des assemblées de quartier. Donc, autant les organisations que les citoyens qui se sentent concernés par ça pour arriver à choisir une solution à mettre en place.
Vous le faites avec les organismes, les citoyens. Est-ce que les élus sont concernés ou du moins sensibilisés à ça?
Absolument. On a une bonne oreille très attentive des élus, surtout au niveau municipal, mais aussi aux autres paliers. Mais comme c'est un service de proximité, ça concerne peut-être plus directement le municipal. Mais donc, oui, on a une super collaboration des élus. Tout le monde voit le problème de santé déjà dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y a une espérance de vie qui est 6 ans en bas de la moyenne montréalaise, qui peut être de plus de 10 ans comparé à d'autres quartiers. Alors, ça, c'est majeur. Et donc là, l'alimentation, ben, c'est une façon de prévenir.
Et c'est parlant comme chiffre, ça. C'est extrêmement révélateur.
Oh, oui, absolument. Ouais. C'est tout à fait révélateur.
Gaëlle, en terminant, Hochelaga Table, cette exposition dont on parle depuis tantôt, c'était le premier volet du projet, mais il y aura une suite. On va peut-être sur votre site pour en savoir davantage.
Oui, ben, vous pouvez déjà voir les projets. billets, puis aussi les photos, etc., sur le site. Mais le but étant de recueillir et analyser ces informations-là pour faire valoir la voix ou les réflexions des jeunes, aux élus, justement, et aussi aux intervenants. Donc, transmettre les informations pertinentes aux gens concernés. Et aux élus, ce qu'on aimerait proposer, c'est une charte alimentaire jeunesse du quartier. Mm-hmm. Donc, au moins des principes importants à respecter dans ce qui est justement ce qu'on pourrait appeler la planification alimentaire de ce quartier-là, Schlagermaisonneuve.
Bon, on suivra ça de près. Blaise Rémillard, coordonnateur pour le projet de solution aux déserts alimentaires de la table de quartier Schlagermaisonneuve, et Gaëlle Janvier, urbaniste chargée de projet en agriculture urbaine et système alimentaire locaux chez Alternative. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Yann Kestens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur du CRCHUM et professeur au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Et vous avez mené cette recherche qui nomme en fait un problème dont on parle depuis quand même quelques années, parce que ce ne sont pas les premières études qui démontrent que peut-être que les habitudes alimentaires chez les hommes ne sont pas tout à fait comme celles des femmes. Mais là, c'est vraiment lié à l'offre de proximité des aliments sains. C'est là-dessus que vous vous êtes intéressé.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une étude que j'ai menée avec Christelle Clary, étudiante au doctorat. Et la question, en fait, portait sur l'influence ou le rôle des environnements alimentaires, ou en tout cas de l'offre effectivement alimentaire dans les quartiers, dans les 5 plus grandes villes canadiennes. Donc on a utilisé des données d'une vaste enquête qui s'appelle l'enquête sur la santé sur les collectivités canadiennes, qui est menée à chaque année auprès d'à peu près 60 000 répondants à travers le pays. Là, on s'est concentré sur les habitants des 5 grandes villes, Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary et Ottawa, pardon. Et donc, on a regroupé 5 cycles d'enquête pour avoir une bonne puissance statistique. Et donc, on a analysé la consommation de fruits et légumes chez 50 000 adultes.
Des hommes et des femmes.
Voilà, des hommes et des femmes, exactement. Alors, ce qui nous intéressait, c'était de mieux comprendre, de voir si le fait d'habiter dans un quartier qui est peut-être mieux pourvu en offre alimentaire qui sert des fruits et légumes, ou moins bien, est-ce que ces caractéristiques-là du quartier ont un impact sur la consommation de fruits et légumes.
Mmh.
Alors, bon, ce qu'on peut observer, d'une part, alors comme vous le disiez au départ, c'est qu'il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes en termes de nombre de portions de fruits et légumes consommés. Mmh. Alors bon, si on se réfère aux recommandations du guide alimentaire canadien, normalement on devrait consommer entre 7 et 10 portions de fruits et légumes par jour. Alors bien sûr, on est nettement en dessous de cet objectif, puisque vous voyez, donc en moyenne chez les femmes, on a 4,4 portions par jour, et chez les hommes, 3,5. Donc c'est quasiment une portion de moins qui est consommée chez les hommes.
Mais pourtant, vous n'avez pas pu tirer cette conclusion-là du côté des femmes. Est-ce que l'on sait pourquoi, Yann Kestens?
Alors en fait, donc notre étude portait sur l'influence de l'environnement. Ce qu'on a regardé, c'est la proportion des commerces dans les quartiers qui offrent des fruits et légumes. Donc on a mis d'un côté les supermarchés, les épiceries, les fruiteries, donc qui ont vraiment une offre de fruits et légumes intéressante, et de l'autre côté des commerces alimentaires qui qui ne répondent pas vraiment à ce critère, donc par exemple les dépanneurs et les restaurants rapides. Alors ce qu'on s'est intéressé, c'est de regarder dans notre environnement quelle était la proportion des commerces qui offraient des fruits et légumes. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est que cette proportion joue effectivement un rôle, est associée à la consommation de fruits et légumes, mais uniquement chez les femmes, chez les hommes, et oui, pas chez les femmes, pardon.
Peut-être parce que, et ça je lisais un petit peu justement en lien avec votre étude, Yann Kestens, c'est que les femmes auraient peut-être plus de connaissances sur le volet de la nutrition. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi on voit tant d'écarts entre les deux sexes?
Alors effectivement, c'est une piste à explorer. Alors nous, notre question de recherche ne portait pas spécifiquement sur les différences hommes-femmes. C'est en faisant nos analyses, si vous voulez, qu'on a réalisé que l'environnement proximal avait un impact sur la consommation chez les hommes, mais pas chez les femmes. Et donc là, effectivement, on peut se poser des questions. Alors c'est clair qu'il y a des différences en termes de connaissances alimentaires, les femmes étant généralement ont des meilleures connaissances sur l'alimentation que les hommes. Mais là, on peut voir aussi que donc les comportements d'achat et d'approvisionnement alimentaire ne sont pas les mêmes, puisque finalement, chez les femmes, l'approvisionnement en fruits et légumes et semble en tout cas moins dépendant de ce qui est offert à proximité. Donc on a là peut-être une stratégie un petit peu plus proactive dans les déplacements et dans l'approvisionnement pour aller chercher ce dont elles ont besoin en fruits et légumes, même si ce n'est pas accessible directement. Alors que donc effectivement chez les hommes, on va avoir plutôt tendance à consommer ce qui est à portée de main, si je peux dire.
Ouais. Vous travaillez au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Donc, j'imagine que vous avez commencé, suite à cette étude-là, à réfléchir à comment, concrètement, on peut influencer les hommes à consommer plus de fruits et de légumes, même si peut-être l'accessibilité n'est pas tout à fait présente.
Oui, bien écoutez, alors là, il y a des pistes de solutions. C'est sûr que moi je suis principalement chercheur, donc je cherche à comprendre un petit peu les mécanismes, à explorer les questions. Ensuite, c'est sûr que c'est à des décideurs et des intervenants d'agir dans les milieux. Bon, on sait bien sûr qu'il y a des facteurs individuels qui sont importants, hein, de connaissances, d'éducation, qui peuvent jouer. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est de voir comment nos villes peuvent être aménagées pour justement favoriser la santé et la qualité de vie. Alors, bon, dans cette étude-là, tendrait à vouloir dire que finalement, d'augmenter la présence de commerces qui offrent des fruits et légumes frais a un effet bénéfique sur la consommation alimentaire chez les hommes et donc sur la santé de la population.
Ah, tout ça est très intéressant. J'aurais aimé avoir plus de temps pour en discuter avec vous, Yann Kestens. Je rappelle, vous êtes chercheur au Centre de recherche du CHUM et professeur au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Si on veut avoir accès à cette étude, bien, on peut aller sur le site de l'Université de Montréal et la trouver assez bien. Et bien, on la glissera également sur le site du Canal M. Merci, ça a été un plaisir de vous parler cet après-midi.
Bon, merci, au revoir.
Merci à Jean-Sébastien Laliberté à la console qui mangeait des fruits et des légumes devant nous. Donc quand même, il y a espoir pour la santé et la nutrition auprès des hommes. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.